Les colloques du Collège de France.
Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là à nouveau. C'est un plaisir pour moi et un honneur de présider cette seconde session de notre colloque genre et sciences. Seconde session consacrée, vous l'avez vu, à un rapport entre histoire et comparaison. De l'histoire, il a été un peu question ce matin, de la comparaison. En somme, nous sommes, en tout cas, au Collège de France, très attentifs à ce qu'elle produit comme effet de connaissance, comparé au loin, comparé avec des périodes passées. On a vu encore une fois ce matin que ce n'est pas toujours se donner le beau rôle, celui des femmes et des hommes éclairés sur les injustices de genre, et que c'est une manière aussi parfois de se souvenir de ce qu'il reste à faire, ce qui est quand même une des définitions possibles de l'histoire. Alors sans tarder, j'ai le plaisir de donner la parole à Marie-Frédérique Pellegrin, qui enseigne à l'université Jean Moulin Lyon 3, qui est philosophe et qui travaille à élargir le corpus et le canon de la philosophie moderne pour repenser le XVIIe siècle. C'est le titre d'un de ses derniers livres, et elle a notamment travaillé sur Poulain de la Barre, ce qui nous a beaucoup intéressé dans le petit groupe qui a coordonné ce colloque. Puisque, effectivement, tenter d'atteindre le matrimoine, c'est aussi s'interroger sur les verrous qui nous empêchent d'y accéder, et notamment les préjugés. Cela aussi, on l'a vu, et notamment celui qui pèse encore aujourd'hui sur les femmes savantes depuis le XVIIe siècle. Donc, nous sommes très heureux de vous entendre sur ce sujet.
Merci beaucoup pour votre invitation. Et merci à toutes et tous d'être là. Qu'appelle-t-on science au XVIIe siècle ? À l'époque contemporaine, le terme évoque immédiatement les sciences exactes et naturelles, et on est contraint d'ajouter l'adjectif humaine quand on veut élargir le champ de la scientificité telle qu'on la conçoit spontanément. Au XVIIe siècle, il n'en est pas de même. Le terme de science est souvent un équivalent de celui de philosophie, de savoir, de sagesse. Premier exemple, dans la préface au principe de la philosophie de Descartes, je cite le texte, il présente ce qu'est la philosophie. « Ainsi, toute la philosophie est comme un arbre dont les racines sont la métaphysique, le tronc la physique. Les branches qui sortent de ce tronc sont toutes les autres sciences qui se réduisent à trois principales, à savoir la médecine, la mécanique et la morale, j'entends la plus haute et la plus parfaite morale, qui, présupposant une entière connaissance des autres sciences, est le dernier degré de la sagesse. » Au travers de cette métaphore de la philosophie comme arbre, qu'est-ce qui retient notre attention ? C'est d'une part que la métaphysique et la morale, par exemple, sont considérées comme des sciences, et d'autre part que la physique, la médecine ou la mécanique relèvent de la philosophie et de la sagesse. Donc, ce premier constat sur la relative indétermination de la notion de science à l'époque moderne a des conséquences concernant les personnes relevant de la classe savante. Qui peut-on désigner par le nom de savant ? Les métaphysiciens, les moralistes, les artisans constructeurs de matériel scientifique, les médecins ? Aussi bien que les physiciens ? Ce constat, il est important pour notre objet parce qu'il incite à se demander comment on nomme les femmes qui pratiquent les sciences au XVIIe siècle. Est-ce qu'une précieuse est une savante ? Est-ce qu'une savante est une scientifique ? Est-ce qu'une scientifique est une philosophe ? À l'époque contemporaine, ces qualificatifs sont très distincts. Ce n'est pas le cas à l'époque moderne. Je prends un premier exemple. Dans le dictionnaire des précieuses de Sommaise, 1661, qui répertorie sous des noms d'emprunt, toutes les femmes françaises relevant du mouvement dit « précieux » de son époque. Eh bien, vous le voyez, dans ma petite liste, certaines ont des activités que nous appellerions des activités scientifiques. C'est en raison donc de cette indétermination relative que je me suis autorisée ce titre pour mon intervention, même si je ne parlerai pas de théâtre. Clin d'œil, bien sûr, à deux célèbres pièces de Molière, « Les précieuses ridicules » 1659 et « Les femmes savantes » 1672. Les femmes qui savent ou qui veulent savoir sont visiblement un objet de moquerie, mais qu'il ne faut pas surestimer, car après tout, les hommes en prennent aussi pour leur grade, dans le bourgeois gentilhomme par exemple. Alors, voilà ce que j'aimerais, le type de question que j'aimerais me poser avec vous aujourd'hui. Ce titre n'est pourtant pas qu'un clin d'œil. La question du ridicule, c'est en réalité la question de la bienséance, de la modestie. On attend des femmes ces deux comportements à cette époque. Et cela peut avoir des conséquences sur leur capacité à participer au développement des sciences et sur leur visibilité dans l'exercice des sciences. Cet adjectif ridicule pose la question des limites sociales à l'exercice de la science par les femmes modernes. Donc cette question, à mon sens, comprend deux dimensions essentielles. D'une part, étudier la place des femmes dans les sciences au XVIIe siècle, et d'autre part, analyser la manière dont actrices et acteurs des sciences se décrivent et se considèrent eux-mêmes. L'enjeu, me semble-t-il, consiste à savoir si théorie et pratique de la science sont envisagées différemment pour et par les femmes et les hommes à l'époque moderne. D'où ma première question. Et pour nourrir cette question, je vais partir d'un constat effectué par François Poulain de la Barre, donc, dont on a parlé en présentation, cartésien féministe de la seconde moitié du XVIIe siècle, qui affirme très nettement l'existence de nombreuses femmes de science à son époque. Je cite « Combien y a-t-il eu de dames et combien y en a-t-il encore qu'on doit mettre au nombre des savants si on ne veut pas les mettre au-dessus ? Le siècle où nous vivons en porte plus que tous les siècles passés. Et comme elles ont égalé les hommes, elles sont plus estimables qu'eux, pour des raisons particulières. Il leur a fallu surmonter la mollesse où on élève leur sexe, renoncer au plaisir et à l'oisiveté où on les réduit, vaincre certains obstacles publics qui les éloignent de l'étude et se mettre au-dessus des idées désavantageuses que le vulgaire a des savantes, comme celles qu'il a de leur sexe en général. Elles ont fait tout cela. Et soit que les difficultés aient rendu leur esprit plus vif et plus pénétrant, soit que ces qualités leur soient naturelles, elles se sont rendues à proportion plus habiles que les hommes. Donc, pour Poulain, il existe, à son époque particulièrement, un grand nombre de savantes, en même temps qu'il énumère, vous le voyez, les principaux freins à leurs activités et à leur reconnaissance. Les deux éléments forment un paradoxe qu'il nous faut analyser. On peut défendre la thèse selon laquelle il existe une certaine mixité de la science à l'époque moderne du fait des lieux où elle se pratique. L'historiographie est en train de revenir de l'idée que les femmes scientifiques constitueraient des exceptions remarquables au XVIIe siècle. Il y a au contraire des femmes scientifiques dans tous les champs de la science à cette époque. Et ceci s'explique d'abord par la manière dont la science se pratique à cette époque. Si l'on entend la science comme l'ensemble des sciences naturelles par exemple, on voit bien qu'elle ne s'épanouit pas réellement à l'université, faute de cours dédiés à ces questions et faute d'intégration de la nouvelle doctrine scientifique galiléo-cartésienne. Donc, elle se développe dans des lieux alternatifs, que je désignerais comme privés ou semi-privés, et on fait des expériences, on présente ses hypothèses dans des conférences, dans des salons, notamment, même si le terme de salon est anachronique à cette époque. Le meilleur exemple, ce sont les milieux cartésiens. Les cartésiens et les cartésiennes sont connus pour débattre de questions physiques dans des réunions à la fois savantes et mondaines. Et on remarque que les femmes savantes de Molière, justement, c'est de physique cartésienne qu'elles discutent, pas de métaphysique, par exemple. De même, Fontenelle, quand il écrit un traité de vulgarisation du cartésianisme pour les femmes, eh bien, ce traité porte sur la physique et sur l'astronomie. Donc, la vie scientifique se déploie beaucoup dans le cadre domestique à cette époque, dans le laboratoire, le bureau, voire même dans la cuisine de sa maison, c'est là qu'on travaille. Ces lieux étant privés, ils sont accessibles aux femmes, contrairement aux bancs de l'université. On pratique des expériences chez soi, soit en les mettant en scène comme lors d'une réception, soit dans le cadre privé avec sa famille et ses amis. Je donnerai un nouvel exemple, c'est celui de Mademoiselle de Scudéry, autrice et salonnière très connue au XVIIe siècle, qui écrit en 1680 une histoire des deux caméléons qui consiste en un témoignage naturaliste selon la formule d'Aude Volpillac qui vient de rééditer cet écrit passionnant. Elle y consigne ses observations sur un couple de caméléons que lui a offert le consul d'Alexandrie. Elle étudie les animaux qui résident chez elle, elle les soumet à des expériences. Le résultat est donc un écrit d'observation et d'analyse qui prend position contre la théorie cartésienne de l'animal-machine. C'est-à-dire que Madeleine de Scudéry, depuis son salon, par ses propres moyens, fait de la science naturelle et entre en débat avec des thèses philosophiques concurrentes sur l'animal à son époque. Il y a donc des petits groupes très actifs de scientifiques dans les maisons des savants et des curieux des sciences, et parmi eux, évidemment, les épouses, les mères, les filles, les sœurs de ces savants. Dans les textes décrivant la vie des savants à l'époque, certaines allusions permettent de se rendre compte de cette pratique familiale et mixte des sciences. Descartes, par exemple, envoie un exemplaire de sa dioptrique à Constantin Huygens. Et il ajoute cette précision dans sa lettre, regardez, Vous m'obligeriez infiniment, si vous prenez la peine de les lire, de marquer ou faire marquer vos corrections à la marge, et de me permettre après de les voir, que si Madame de Zulichen y voulait aussi joindre les siennes, je le tiendrais à une faveur inestimable, et je croirais bien plus à son jugement qu'à celui de beaucoup de philosophes qui souvent est rendu par art fort mauvais. Je ne tire déjà pas peu de vanité de ce qu'elle a daigné écouter quelque chose des météores. Ce sont donc les essais scientifiques qui accompagnent le discours de la méthode que Descartes souhaite. C'est sur eux que Descartes souhaite avoir l'avis, non seulement de Huygens, mais de sa femme, Susanna van Berle, savante bien connue, qui collaborait étroitement avec son mari. Un second exemple permet d'entrevoir ces figures de savantes à l'arrière-plan des savants. Bonaventure d'Argonne écrit des mélanges d'histoire et de littérature en 1700. Il s'agit d'un recueil disparate de vignettes élogieuses ou satiriques sur rois, reines, savants, littérateurs. Et dans ce recueil, une entrée de la table des matières attire l'attention. Elle s'intitule « Femmes de savants ». L'auteur y narre quelques anecdotes sur des femmes de savants orgueilleuses. L'existence même d'un chapitre intitulé « Femmes de savants » est intéressante, significative. Cela indique bien ce caractère familial, collectif et mixte des pratiques scientifiques à l'époque. La description est satirique. Différentes femmes de savants sont présentées comme fières des succès de leur mari, au travers notamment de deux types d'anecdotes. D'une part, elles sont très regardantes sur les personnes venant assister aux conférences de leurs époux, admettant ou refusant tel ou tel sur le pas de la porte. D'autre part, elles se battent pour que ceux-ci obtiennent une sépulture à leur mesure. Concernant Sommèze, Claude Sommèze et Anne Mercier, voilà ce que dit le texte. « Madame de Sommèze croyait être la reine des sciences. » Monsieur de Sommèze étant regardé comme un souverain parmi les critiques et les savants. La bonne dame se mêlait dans toutes les conférences qui se tenaient dans le cabinet de son mari. Elle y parlait avec hauteur et décidait de tout en souveraine. Pour le dire de manière un peu plus neutre, Madame de Sommèze participait aux discussions intellectuelles qui se déroulaient chez elle, tout simplement. Troisième exemple, quand la femme savante vit seule, elle pratique là aussi ses activités dans l'espace privé de son logis. Et là, je voudrais donner l'exemple de Marie de Gournay. Marie de Gournay, elle est connue pour avoir été instituée par Montaigne, éditrice de ses œuvres posthumes. C'est une femme de lettres très connue à l'époque. Elle est importante aussi dans l'histoire du féminisme, car c'est l'une des premières à soutenir un féminisme reposant sur l'égalité des sexes. Elle est éditrice, poétesse, romancière, traductrice, mais aussi scientifique. Elle pratique en effet l'alchimie pendant plusieurs années. Elle y consacre du temps, de l'argent, et elle est très critiquée pour cela. Dans un de ses écrits autobiographiques, elle décide de répondre à ses critiques et se justifie, budget à l'appui, de ce travail de recherche. C'est à la fois touchant et instructif. Elle met d'abord en avant le mépris général pour les femmes savantes qui vise à les ridiculiser. On y revient. Je cite « Il n'est rien pour lui de sot ni de ridicule après la pauvreté comme d'être clairvoyant et savant. Combien plus d'être clairvoyante et savante ou d'avoir simplement, ainsi que moi, désirer de se rendre telle. Parmi notre vulgaire, on fagote à fantaisie l'image des femmes lettrées, c'est-à-dire on compose d'elles une fricassée d'extravagance et de chimère. » Elle en vient ensuite, plus spécifiquement, aux critiques concernant ses recherches scientifiques. À ce décrit général des femmes studieuses, on ajoute en mon fait un point particulier, c'est de pratiquer l'alchimie, qu'il croit en soi folie parfaite. Elle y répond avec l'argument essentiel d'une légitime curiosité intellectuelle liée à la volonté de comprendre la nature. Elle parle ainsi de belles spéculations de nature, dignes d'un esprit curieux. Or, on lui reproche d'avoir dilapidé son argent dans ses expériences alchimiques. Les instruments, les matériaux coûtent très cher. C'est là qu'elle décide de présenter les comptes de ses expériences. Je résume ce témoignage, que je n'ai pas le temps de lire. Il est assez extraordinaire, parce qu'il montre les conditions matérielles dans lesquelles se pratiquent les sciences naturelles. Elle profite du feu du verrier habitant dans sa rue, ça s'appelle toujours la rue de la Verrerie à Paris, elle fait ses expériences à son domicile personnel, elle ne touche pas à son patrimoine mais dépense uniquement l'argent qu'elle a elle-même gagné du fait de ses productions intellectuelles, et le coût de ce travail explique qu'elle renonce aux atours et aux règles de savoir-vivre d'une dame de petite noblesse comme elle. On peut donc dire que le fait que les sciences, notamment exactes et naturelles, soient peu enseignées à l'université, était plutôt favorable à la participation des femmes à celles-ci. Dans les cercles, dans les cours nobles, dans les conférences, dans les correspondances, où se pratiquent plus volontiers ces sciences, elles peuvent se mêler à leurs collègues masculins. À partir de la fin du siècle, où les sciences commencent à engendrer des institutions, ces lieux propres vont marquer, vous vous en doutez, un recul de la mixité admise dans les sciences. En effet, l'immense majorité des académies et des sociétés royales sont strictement masculines. Je donnerai deux exemples, celui de Catherine Boyle, la sœur de Robert Boyle. Elle fait partie du Hartlepool Circle, qui est un cercle de savants et de philosophes anglais. Elle vit avec son frère, ils partagent le même laboratoire, ils travaillent ensemble. À partir du moment où le cercle Hartlib est considéré comme la prémisse de la Royal Society, eh bien, cette Catherine Jones ne peut plus participer à leurs travaux, puisqu'elle n'est pas mixte. Pareil en France, les salons de Madame d'Auchy, de Madame de Rambouillet, de Mademoiselle de Scudéry, eh bien, sont des lieux de savoir mixte. À partir du moment où l'Académie française est créée, eh bien, tous les invités masculins de ces salons se déportent à l'Académie, évidemment, les femmes restent chez elles. Dans sa présentation de l'histoire des sciences, Poulain de la Barre rend bien compte de cette bascule. Je cite, « Lorsque plusieurs de ces scientifiques en furent imbus, ils s'assemblèrent en certains lieux pour en parler plus à leur aise. Chacun disant ses pensées, les sciences se perfectionnèrent. On fit des académies où l'on n'appela point les femmes et elles furent de cette sorte exclues des sciences comme elles l'étaient du reste. La contrainte dans laquelle on les retenait n'empêcha pas que quelques-unes eussent l'entretien ou les écrits des savants. Elles égalèrent en peu de temps les plus habiles. Et comme on s'était déjà forgé une bienséance importune, les hommes n'osant venir chez elles, ni les autres femmes s'y trouver, de peur qu'on en prît ombrage, elles ne firent point de disciples ni de sectataires, et tout ce qu'elles avaient acquis de lumière mourait inutilement avec elles. » Donc, faute de lieu où présenter leurs théories et les enseigner, la science des femmes meurt avec elles. Le problème des sciences au féminin est donc moins sa pratique, me semble-t-il, que sa visibilité et sa transmission au XVIIe siècle. Carol Pahl parle d'une « ongoing negotiations for space », c'est-à-dire une négociation en cours, une négociation continue pour un espace d'expression des savantes. Plus le siècle avance, plus les femmes perdent leur place visible dans la communauté scientifique, justement parce que cette dernière est en voie de reconnaissance publique et étatique. Il ne faut pas oublier que l'histoire des droits des femmes n'est pas linéaire et que le XVIIe siècle inaugure des reculs importants dans la mixité des savoirs. Pourtant, les pratiques scientifiques féminines sont bien toujours présentes, c'est mon deuxième moment. Ma question directrice sera la suivante. Est-ce que le recul de la visibilité des femmes dans certaines sciences ne traduit pas un partage de plus en plus sexué des savoirs ? En d'autres termes, au sein de ce qu'on appelle « science » au XVIIe siècle, c'est-à-dire en réalité, vous l'avez compris, des savoirs assez disparates, conçoit-on des sciences plus spécifiquement féminines que d'autres ? Il semble qu'au fur et à mesure du siècle, on tende à vouloir confiner les femmes dans certains domaines d'expertise. Ces distinctions entre disciplines admises ou interdites aux femmes culmineront au XVIIIe siècle avec les différences entre les arts liés au goût, où les femmes sont censées avoir une légitimité, et les sciences liées au vrai, où elles sont censées être incompétentes. Le premier constat qui ressort des analyses précédentes, c'est que, je ne vous l'apprends pas, plus un domaine est reconnu et validé publiquement, plus il se masculinise, hier comme aujourd'hui. Je prendrai le cas de la médecine. L'exemple de la médecine. Il y a deux grandes écoles de médecine française sous l'Ancien Régime, elles ne sont pas mixtes. Mais la médecine relève avant tout de savoir pratique, professionnel et populaire. Celui du barbier, de l'apothicaire, mais aussi celui de la sage-femme, de la rebouteuse. Donc la médecine est traditionnellement un art largement féminin, parce que c'est un art domestique. Les femmes confectionnent et administrent des remèdes, connaissent les propriétés des plantes, soignent les malades. Leurs savoirs prennent la forme de manuscrits, de lettres, de recettes, de notes médicales, mais on en a fort peu de traces. Avec l'introduction d'études de médecine non mixtes, l'expertise féminine en ce domaine va reculer. Deuxième constat, plus on s'approche des sciences des actes, moins les femmes sont reconnues comme légitimes. Là aussi, ça n'a pas beaucoup changé, voir les exposés de ce matin. Je reprends un passage de Poulain. Il est vrai qu'il y a des sciences dont on n'entend point parler les femmes, parce que ce ne sont point des sciences de mise ni de société. L'algèbre, la géométrie, l'optique ne sortent presque jamais des cabinets ni des académies savantes pour venir au milieu du monde. Et comme leur plus grand usage est de donner la justesse dans les pensées, elles ne doivent paraître dans le commerce ordinaire que secrètement et comme des ressorts cachés qui font jouer de grandes machines. C'est-à-dire qu'il en faut faire l'application sur les sujets d'entretien et penser et parler juste et géométriquement sans faire paraître qu'on est géomètre. Donc vous voyez par cet extrait qu'on retrouve la question des lieux où se pratiquent les sciences exactes. Poulain évoque également les règles de la bienséance qui font qu'elle n'est pas pratiquée telle qu'elle dans les lieux mixtes. Et enfin, l'argument selon lequel si une femme s'y connaît en ces domaines, elle ne doit pas le montrer si elle ne veut pas être considérée comme pédante, donc ridicule. Troisième point, ces différences entre sciences féminines et masculines s'expliquent par le rôle social, évidemment, dévolu aux femmes. Élever les enfants, tenir la maison. Elles doivent donc être expertes avant tout en philosophie morale, en religion et en économie. Je prendrai l'exemple donc de Louis de Lesclache. Il donne des conférences et des leçons à domicile et écrit de nombreux ouvrages de vulgarisation philosophique d'obédience aristotélicienne. L'un de ses ouvrages est destiné aux femmes, les avantages que les femmes peuvent recevoir de la philosophie. Dans la préface de l'ouvrage, 1667, un mari se plaint de ce que sa femme se pique de philosophie. Elle se rend chez un philosophe où elle avait poussé deux boules d'ivoire l'une contre l'autre sur une table pour savoir, disait-elle, de combien de degrés la plus grosse serait reculée la plus petite. Elle s'exerce également à l'astronomie, observant la Lune pour découvrir de quelle façon les peuples de la Lune étaient vêtus. Et enfin, elle s'adonne à la chimie et plus précisément à la recherche de la pierre philosophale. Face à ce portrait satirique désavantageux, Lesclache va donc opposer les avantages de la philosophie pour les femmes en distinguant justement entre les sciences spéculatives inutiles et les sciences nécessaires aux femmes pour mener leurs tâches d'épouse et de mère. Il en déduit que c'est avant tout en philosophie morale qu'elles doivent d'abord se cultiver et s'exercer. Cependant, un examen plus précis de l'ouvrage montre bien que ce critère de la bienséance et de l'utilité sociale des savoirs féminins est constamment discuté. La ongoing negotiation for space se poursuit inlassablement tout au long du XVIIe siècle. Ainsi, trois points intrigants attirent l'attention concernant cet ouvrage. Tout d'abord, après avoir exclu les sciences naturelles et abstraites des matières recommandables pour les femmes, le traité finit par considérer que toutes les branches de la philosophie découlant les unes des autres, les femmes peuvent s'adonner à toutes les sciences. Deuxième point, la préface constate que si les hommes veulent encadrer et restreindre le savoir des femmes, c'est d'abord parce qu'ils ont peur qu'elles se rendent compte à quel point ils sont ignorants. Troisième point, selon certaines sources, cet ouvrage de philosophie pour les dames aurait été écrit non par monsieur, mais par madame Lesclache, dont certains dictionnaires de l'époque expliquent qu'elle enseignait et écrivait tout comme son mari. Donc vous le voyez, dès qu'on creuse un peu, on se rend compte que les femmes résistent à la défense sociale qui leur est faite de se consacrer aux sciences. Alors quel rôle dans la République des Lettres ? La négociation d'espace, d'échanges scientifiques mixtes, est une constante tout au long du XVIIe siècle. Les femmes utilisent tous les canaux existants et participent ainsi de fait à ce qu'on appelle à l'époque la République des Lettres, c'est-à-dire la communauté des savants à l'échelle nationale et internationale. Françoise Vaquet a écrit un article évidemment remarquable sur cette entité de République des Lettres. Voici comment Bonaventure d'Argonne à nouveau définit cette République. Gens de toute nation, de toute condition, de tous âges, de tout sexe. On y parle des langues vivantes, mortes. On parle de lettres, mais on parle d'art et de mécanique aussi bien. Donc, vous voyez, on a une communauté de chercheuses et de chercheurs de toute nationalité dans cette République, censée échanger toutes les nouveautés, toutes les découvertes, les unes avec les autres. Parmi ces échanges, il faut mettre en exergue l'importance scientifique à l'époque des correspondances. Les correspondances savantes, c'est vraiment essentiel. Or, dans une correspondance, l'échange est très souvent mixte, voire celle entre Margarita Sarocchi et Galilée, par exemple. Les correspondances entre personnes lettrées n'ont jamais un statut privé au XVIIe siècle. Ces lettres sont faites pour être diffusées dans des cercles plus ou moins larges et puis ensuite publiées dans les œuvres complètes des auteurs ou autrices. Je prendrai ici le cas d'Élisabeth de Bohême, qui est sans doute le plus remarquable au XVIIe siècle, qui témoigne du rôle de ces femmes dans la République savante européenne moderne. On la connaît pour sa correspondance avec Descartes, qui traite aussi bien de l'union de l'âme et du corps, des mathématiques, physique, médecine, morale, mais la princesse Élisabeth de Bohême est aussi au cœur d'échanges intellectuels dans toute l'Europe et a écrit des centaines de lettres touchant aux sciences. De nombreux traités scientifiques lui sont dédiés, elle transmet des copies de ses échanges scientifiques à tel ou tel, elle résout des questions mathématiques délicates comme la théorie des trois cercles, elle participe à des débats d'astronomie pointue, les satellites de Jupiter, la cartographie de la Lune, le développement des télescopes, et elle fait des dissections dans sa cour itinérante. Ce n'est donc pas étonnant si Descartes lui dédie ses principes de la philosophie. Voici le portrait qu'il en fait. Il est beaucoup plus long, j'en tire un extrait. Vous voyez que dans ce portrait, Descartes, j'ai pas le temps de le lire, je suis un petit peu en retard, indique clairement que les filles sont dissuadées des occupations scientifiques par leur éducation même et que le rang n'y change rien. Il souligne ensuite que Élisabeth de Bohême est capable d'embrasser toutes les sciences. Je ne lis pas non plus le texte. Il explique en substance qu'il n'a rencontré qu'une seule personne apte aussi bien aux sciences dérivées de la mathématique qu'aux sciences dérivées de la métaphysique, et c'est elle. Pourtant, il en a connu des savants et des savantes, hein, Descartes. Car le dernier point essentiel pour comprendre cette république des lettres, c'est que Petit régnait ce que l'on pourrait appeler une forme de sororité. On voit en effet qu'elle contient des réseaux féminins où des femmes s'organisent entre elles pour échanger intellectuellement. Elles se tiennent au courant de ce qui se dit, de ce qui se pense, elles s'envoient des bouquins, elles entrent en relation et elles se citent les unes les autres pour se donner de la publicité. Ça, c'est très important, évidemment, d'être cité par d'autres. Je donne ici l'exemple d'Anna Maria van Schurman, la grande savante hollandaise, qui va citer Gournay et son écrit féministe « L'égalité des hommes et des femmes » dans une lettre au savant André Rivet, dont elle sait donc qu'elle sera publiée. Et en retour, Gournay lui promet de la citer dans sa prochaine édition de cette œuvre. Vous voyez, c'est des échanges de bons procédés pour se donner de la publicité les unes aux autres. Rivet, ministre protestant et intellectuel reconnu, est dès lors forcé de discuter la thèse de l'égalité des sexes présentée par Gournay. Et ça ne lui plaît pas trop. J'ai retenu juste une phrase. Hein ? « Je ne crois pas devoir encourir votre haine si, contre la maxime de la demoiselle de Gournay, je dis avec l'apôtre que la femme est un vaisseau plus fragile que l'homme. » La faiblesse féminine est un topos qu'il faut donc examiner. Et ce sera le dernier temps de mon intervention. La vraie question qu'on doit se poser, au fond, hein. On a insisté sur les facteurs matériels expliquant l'invisibilisation des femmes dans les sciences sous l'Ancien Régime. Ces facteurs sont évidemment créés par les sociétés de l'époque, soit que l'on considère que l'esprit des femmes est généralement inférieur à celui des hommes, soit que l'on n'entende pas partager avec les femmes le pouvoir généré par le savoir. Ça, c'est un thème chez Poulain très important. Dès qu'il y a du pouvoir, il n'y a plus de mixité. Or, le savoir, c'est un grand pouvoir. Donc, mon premier point, tout naturellement, s'intitule la misogynie savante. Le frein principal à la reconnaissance des savantes, c'est la misogynie des savants. Gournay le rappelle en mettant en scène une femme qui voudrait parler dans une assemblée d'hommes à partir de sa propre expérience. De quelle injuste façon est-il ordinairement traité, je vous prie, aux conférences autant qu'il s'en mêle. Et suis si peu, ou pour mieux dire, si fort glorieuse, que je ne crains pas d'avouer que je le sais de ma propre expérience. Eussent les dames, les raisons et les méditations de Carnéade, il n'y a si chétif qu'il ne les rembarre avec approbation de la plupart des assistants quand, avec un sourire seulement ou un petit branlement de tête, son éloquence muette aura dit « c'est une femme qui parle ». C'est bien ce sourire qu'il faut interroger. Poulain réfléchit aux causes de la misogynie et distingue entre la misogynie vulgaire et la misogynie savante. Et que dit-il dans « De l'égalité des deux sexes » en 1673 ? Il dit que la misogynie savante est beaucoup plus préoccupante que la misogynie vulgaire parce que c'est elle qui fixe les arguments, qui légitime la perpétuation de ce préjugé. Ce qui confirme le vulgaire dans la pensée qu'il a des femmes, c'est qu'il s'y voit appuyé par le sentiment des savants. Ainsi, la voix publique de ceux qui dominent par la créance, s'accordant au désavantage des femmes, avec certaines apparences générales, il ne faut pas s'étonner de les voir si mal dans l'esprit des personnes simples et sans lumière. Et il arrive en cela, comme en une infinité d'autres choses, que l'on se fortifie dans un préjugé par un autre. Certains types de savoir prétendent ancrer dans une nature féminine l'incapacité des femmes aux sciences, d'où la responsabilité énorme des savants eux-mêmes. Donc, c'est le dernier point de mon intervention d'aujourd'hui. J'ai largement le temps, il me reste 3 minutes. Notre réflexion doit aboutir à une réflexion anthropologique au sens du XVIIe siècle, c'est-à-dire science de l'être humain, et ontologique. La misogynie savante s'appuie en effet sur une certaine conception anthropologique et médicale des femmes. La thèse que j'ai défendue dans un livre récent, je me permets de faire un tout petit peu de pub, est que la psychophysiologie, c'est-à-dire les rapports entre corps et esprit, tant qu'ils suivent le modèle hippocratique et galénique, hein, celui d'Hippocrate et de Galien que je vous ai mis juste avant, les préjugés selon lesquels les femmes ne peuvent penser aux choses sérieuses ni entamer des recherches intellectuelles profondes est tenace. Car ils s'ancrent dans le corps féminin même, c'est-à-dire dans le tempérament qui est censé dépendre du sexe et donc influencer l'esprit. Avec le changement de modèle opéré par Descartes, la donne se modifie, dans certaines analyses philosophiques en tout cas. Et je reviens encore et toujours à Poulain et ses 3 traités féministes de 1673, 74 et 75. Il repose sur l'idée que le sexe n'a pas d'incidence repérable dans la manière de raisonner. La formule bien connue de Poulain, « l'esprit n'a point de sexe », seuls les interdits sociaux et les freins éducatifs expliquent, expliquent que la classe reconnue des savants soit majoritairement masculine. L'esprit n'a point de sexe, donc le corps et le sexe du corps n'influencent pas les manières de penser, selon Poulain. Les résistances à la reconnaissance des femmes dans le champ du savoir demeurent cependant. Et je souhaite finir par un extrait en demi-teinte. Je ne voulais pas finir par quelque chose d'optimiste, parce que ça ne décrirait pas bien le mouvement général de la période que je viens d'évoquer avec vous. C'est un passage de Malebranche, qui est aussi un disciple de Descartes comme Poulain. Regardez ce que ça donne. Les esprits animaux, donc c'est les plus petites parties du sang, ont quelquefois une telle proportion avec les fibres du cerveau qu'il se trouve des femmes qui ont plus de solidité d'esprit que quelques hommes. C'est dans un certain tempérament de la grosseur et de l'agitation des esprits animaux avec les fibres du cerveau que consiste la force de l'esprit. Et les femmes ont quelquefois ce juste tempérament. Il y a des femmes fortes et constantes. Il y a des hommes faibles et inconstants. Il y a des femmes savantes, des femmes courageuses, des femmes capables de tout. Et il se trouve au contraire des hommes mous et efféminés, incapables de rien pénétrer et de rien exécuter. Vous voyez que le passage est remarquable à plusieurs égards. D'abord, le propos s'appuie sur une analyse psychophysiologique. Les femmes ont le sang et les fibres du cerveau d'une texture différente des hommes. Ensuite, ceci est vrai de manière générale, mais comporte des exceptions. Et ces exceptions permettent l'émergence de savoirs féminins. Enfin, la faiblesse et la mollesse sont des qualités féminines, mais elles peuvent se retrouver chez certains hommes. La problématique contemporaine de différence entre genre et sexe biologique affleure ici dans un débat sur l'intelligence des femmes. Donc, en conclusion, les femmes sont des objets controversés pour les sciences, notamment pour la psychophysiologie, la médecine et la morale au XVIIe siècle. Mais les femmes, vous l'avez constaté, sont aussi les sujets des sciences à cette époque. Dès lors, je ne sais pas si ma conclusion est optimiste ou pessimiste. Son aspect optimiste, c'est que nous avons vu que la science a toujours été mixte. Son aspect pessimiste est que les résistances à l'intégration et à la reconnaissance des femmes dans le milieu scientifique y sont importantes, car elles sont à la fois pratiques, les lieux de la science, et théoriques, la vision de l'esprit féminin. À cet égard, le XVIIe siècle est un siècle clé dans l'exclusion des femmes hors des sciences, en même temps que s'y pense une certaine reconnaissance philosophique de l'égalité intellectuelle entre femmes et hommes. Merci beaucoup.
C'est nous qui vous remercions, bien sûr, pour nous montrer de manière si vaillante et si brillante ce que peut l'histoire face à ces questions-là, c'est-à-dire démontrer à la fois les possibles et ce qui nous empêche d'y accéder à nouveau. Merci beaucoup, Marie-Frédérique Felgrin.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.